RFI, 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza pour faire pression sur le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien refuse une proposition américaine prévoyant une extension du cessez-le-feu et une remise immédiate de la moitié des otages restants. Un blocage qui intervient alors que des frappes israéliennes ont été menées sur la bande de Gaza. À suivre la correspondance de Michel Paul. Fin du sommet européen à Londres sur la sécurité européenne et sur l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer affirme que plusieurs pays sont prêts à former une coalition de volontaires au niveau européen pour venir en aide à l'Ukraine. En Iran, le ministre de l'économie révoqué par le Parlement entre dépréciation de la monnaie et inflation. Et puis les Oscars, c'est cette nuit à Los Angeles. La tragicomédie Anora, le thriller papal Conclave et le film fleuve de Brutaliste sont bien placés. Par contre, l'ex-favori Emilia Pérez du français Jacques Audiard a sérieusement dévissé sur l'échelle des pronostics. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire à Gaza. Israël a annoncé ce dimanche qu'elle suspendait l'entrée de cette aide après le refus par le Hamas d'une proposition américaine prévoyant une extension du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril et une remise immédiate de la moitié des otages restants, morts et vivants. Un blocage qui intervient alors que des frappes israéliennes ont été menées sur la bande de Gaza. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
Depuis ce matin, l'armée israélienne multiplie les attaques sur plusieurs sites de la bande de Gaza. Des tirs de l'aviation, de drones et également des bombardements d'artillerie. Ce matin, le bureau du Premier ministre israélien annonçait avoir bloqué tout passage d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le Hamas parle de crimes de guerre et fait porter sur Israël la responsabilité du sort des otages. C'est ce qu'affirme Hazem Qassem, porte-parole du mouvement islamiste. En tout, l'organisation décompte près d'un millier de violations de l'accord par Israël depuis le 19 janvier dernier. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, pour sa part, qualifie de mensonge les affirmations sur les risques de famine dans la bande de Gaza. Il s'agit visiblement pour Israël de faire monter la pression sur le Hamas après la fin de la phase 1 de l'accord de trêve. Israël et les États-Unis proposent une prolongation du cessez-le-feu pour la période du Ramadan et de la Pâque juive avec la restitution immédiate de la moitié des otages toujours retenus à Gaza, morts et vivants. Le Hamas a rejeté ce plan, mais l'Égypte propose une nouvelle médiation. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Il faut d'urgence réarmer l'Europe. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne ce soir à la sortie du sommet de Londres sur la guerre en Ukraine et donc aussi sur la sécurité européenne. Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle allait présenter un plan global sur la manière de réarmer l'Europe dès ce jeudi lors du sommet spécial de l'Union européenne sur la défense. Elle a aussi parlé de discussions bonnes et franches des 18 dirigeants de pays alliés réunis autour du président ukrainien et elle a évoqué le besoin de garanties de sécurité globale pour l'Ukraine dans l'avenir. À ce propos, le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué que la Grande-Bretagne, la France, l'Ukraine et d'autres pays pourraient former une coalition de volontaires et soumettre un plan de paix à Donald Trump, sans préciser pour le moment quels autres pays étaient concernés. Aurélien Antoine, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, rappelle que depuis le début de la guerre, Londres a été l'un des plus fervents soutiens de Kiev.
Les Britanniques sont en première ligne du soutien à Kiev, y compris à l'époque de Boris Johnson, dont on a fait souvent de sa personnalité une espèce de simili de Donald Trump. Sur cette question, pas vraiment, puisque Boris Johnson a toujours été assez réactif et très mobilisé en faveur de l'Ukraine. Et par ailleurs, ça se poursuit avec le gouvernement travailliste et la leader de l'opposition aujourd'hui conservatrice a rappelé que tous les partis britanniques étaient unis derrière cette ligne-là et cet investissement en faveur de l'Ukraine et a permis d'ailleurs aux Britanniques de se méfier très tôt de l'attitude de la Russie vis-à-vis de leur projet en Ukraine. Et il est indéniable que les Britanniques paraissent aujourd'hui comme le tout premier soutien matériel et j'allais dire désormais politique en faveur de l'Ukraine.
Aurélien Antoine interrogé par Guillaume Katara. Élection législative au Tadjikistan ce dimanche. C'est le parti du président au pouvoir depuis 1992 qui devrait logiquement avoir la majorité. Le scrutin intervient un mois après la condamnation de 9 responsables politiques de l'opposition ainsi que de journalistes à des peines allant jusqu'à 27 ans de prison dans une affaire tenue secrète. Ce dimanche, les observateurs internationaux de l'OSCE étaient absents faute de garantie formelle d'être en mesure de mener à bien leur travail. En Iran, le Parlement révoque le ministre de l'économie. Abdel Nasser Emati était en poste depuis août dernier et il faisait face à une forte dépréciation de la monnaie nationale, le rial iranien, face au dollar. L'inflation très forte pèse lourdement sur les ménages depuis plus de 5 ans. Une situation qui s'est encore aggravée depuis la chute de l'allié Bachar al-Assad en Syrie et depuis aussi l'élection aux États-Unis de Donald Trump. Alexis Bédu.
Les critiques sont vives contre la gestion de l'économie nationale d'Abdel Nasser Emati. Un dollar s'échange à plus de 900 000 rials au marché noir. C'est 300 000 de plus qu'en juillet dernier. Dépréciation fulgurante de la monnaie nationale. Inflation chronique en moyenne à 30% depuis 2019. Le président Massoud Pezeshkian a tenté à la tribune de défendre son ministre de l'économie.
Gaza, le Liban, la Syrie, Trump, chacun de ces problèmes nous a fait entrer dans une guerre économique à grande échelle, avec de nombreux ennemis. Se blâmer les uns les autres ne résoudra pas nos problèmes. Quand nous sommes en guerre, il faut accepter l'état de guerre.
La réélection de Donald Trump, qui avait réimposé les sanctions contre l'Iran lors de son premier mandat, la chute de Bachar al-Assad, dont l'Iran était le principal allié, autant d'événements internationaux qui ont un peu plus précipité la chute du rial et donc le limogeage d'Abdel Nasser Emati. Il y a 2 ans, c'était le ministre de l'Industrie qui avait été destitué à cause de la flambée des prix.
Dans le nord du Japon, des milliers d'habitants ont dû être évacués pour cause de feux de forêt, des feux qui ont commencé mercredi et qui ont tué au moins une personne et ravagé une zone d'une taille inédite depuis 1992. Selon la presse, 1800 hectares sont touchés. L'année 2024 avait été la plus chaude jamais enregistrée au Japon. Pendant ce temps, la Réunion, la route du littoral reliant l'ouest au nord de l'île a été rouverte à la circulation. Sur l'île de l'océan Indien, l'heure est au nettoyage après le passage du cyclone Garance qui a fait 4 morts et 5 blessés. Les réseaux électriques sont en train d'être progressivement mis en route. 90 000 personnes sont toujours privées de courant. L'accès à l'eau reste aussi perturbé. Après les Césars en France, les Oscars aux États-Unis. La cérémonie a lieu ce dimanche à Los Angeles. Tout se joue entre 3 films dont ne fait pas partie Emilia Pérez du français Jacques Audiard. Elisabeth Le Quéré.
C'était le favori, toutes catégories confondues, avec ses 13 nominations, du jamais vu. Pour un film non anglophone, Emilia Pérez semblait tout naturellement appelée à voguer vers le sommet du podium. Mais une série de polémiques a commencé par la résurgence de tweets racistes postés par son actrice principale, Carla Sofia Gascón, en a voulu autrement. Et le film de Jacques Audiard pourrait bien repartir les mains vides, ou presque, de la cérémonie. Désormais, c'est donc ailleurs que les regards se tournent, et d'abord vers The Brutalist et son réalisateur Brady Corbett. Cette fresque monumentale, portrait d'un architecte de génie, joué par Adrien Brody, a déjà amassé une pluie de récompenses et cumulé plus de 30 millions de dollars de recettes de par le monde. Sur ses talons, le thriller vaticaniste Conclave, et puis, bien sûr, le challenger Anora, celui que personne n'avait vu venir malgré sa palme d'or reçue à Cannes en mai dernier. Portrait d'une call girl aussi ambitieuse que déterminée, le film a mis en lumière son actrice, Mikey Madison, d'ores et déjà considérée comme une candidate toute désignée à l'Oscar de la meilleure actrice.
Elisabeth Le Quéré, sport du foot. En France, en Ligue 1, Lyon s'est imposé difficilement à domicile face à Brest 2-1. Pour ce qui est de la Coupe d'Angleterre, Manchester United, le tenant du titre, a été éliminé en 8e de finale à l'issue d'une séance de tirs au but remportée par Fulham, 1-1, et ensuite ça a été 4-3 lors des tirs au but. Un peu de moto, la première course de la saison de MotoGP, Moto Grand Prix, avait lieu ce dimanche en Thaïlande. C'est Marc Marquez, déjà sextuple champion du monde, qui l'a remporté pour ses débuts sur l'écurie Ducati. Il était déjà arrivé en tête lors de la course de sprint ce samedi. Ce dimanche, l'Espagnol a franchi la ligne devant son frère Alex Marquez, qui est lui arrivé deuxième. Quelques notes de son titre « Wish I Didn't Miss You ». On a appris ce dimanche la mort d'Angie Stone dans un accident de la route. Elle rentrait d'un concert qu'elle venait de donner. La chanteuse américaine avait connu le succès dans les années 90 à la faveur du courant néo-soul. Mais elle est aussi considérée comme une pionnière du hip-hop avec son groupe exclusivement féminin The Sequence qui avait signé à la fin des années 70 sur le fameux label Sugar Hill Records. Dans une poignée de secondes, 21h10 à Paris.